Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des choses en lien avec l'écologie et le Lab 01. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Alex.
Bonjour.
Anne-Sophie.
Salut.
Et je suis Mathilde. S'il y a bien un sujet qui a été présent tout au long de nos 2 ans d'émission de Court-circuit, c'est bien les déchets. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les déchets organiques, dits biodéchets. Qu'est-ce que c'est? Comment bien les trier? Qu'est-ce qu'on en fait après? Quelle est la réglementation en la matière? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions en commençant donc par une petite définition, comme d'habitude. Alors, il s'agit donc des déchets qui sont fermentescibles, autrement dit, qui peuvent pourrir. Donc il existe plusieurs grandes familles, il y a les déchets de cuisine.
Du coup, on est un déchet alimentaire alors nous-mêmes,
absolument.
Vu qu'on peut pourrir.
On peut se composter à l'infini, bientôt, quand la réglementation le permettra. Les déchets de cuisine, donc les fruits et les légumes abîmés, le marc de café, les restes alimentaires, ça on a l'habitude. Les déchets de maison auxquels on pense un peu moins, comme le papier biodégradable sans encre et sans colle, les mouchoirs en papier, les cendres et sciures de bois, et même les rouleaux de papier toilette vide. Et les déchets de jardin, citons donc la tonte de pelouse, la paille, le foin, les déchets du potager. Tout ça, en fait, se divise donc en 2 catégories. Les déchets verts, ceux qui sont riches en azote, donc par exemple les restes de légumes, qui sont humides, et les déchets bruns, qui sont secs et riches en carbone, comme les feuilles mortes. Selon l'ADEME, en 2023, on a produit en France pas moins de 46 millions de tonnes de déchets organiques, tout type confondus. On estime qu'ils représentent un tiers du poids des ordures des ménages. Plus que des déchets, il s'agit pourtant de matières premières précieuses, parce que bien recyclées, ils peuvent produire de l'énergie ou enrichir la terre, c'est ce qu'on va voir. Il est donc primordial, de les recycler. D'autant que les déchets organiques mal gérés peuvent provoquer des nuisances, comme des mauvaises odeurs, dues à la pourriture, la pollution des sols et même la transmission de maladies. Sachez que 80% des biodéchets sont constitués d'eau. Donc les détruire consomment de l'énergie de manière inutile. Plus de 800 000 tonnes de gaz à effet de serre pourraient être évitées si on les triait correctement. Et ça concerne aussi bien les particuliers que les professionnels, comme les secteurs de l'agriculture, bien sûr, mais aussi l'industrie agroalimentaire, les collectivités et la restauration avec le gaspillage alimentaire. Faisons un petit point réglementation sur le sujet.
Alors ouais, en fait, depuis le 1er janvier 2024, il y a une loi qui est passée en France. Et alors pourquoi il y a eu cette loi? Tout simplement parce qu'en fait, on estime qu'il y a 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont perdus, gâchés, jetés en France chaque année. Donc c'est énorme. Et donc du coup, les législateurs se sont dit, on va quand même essayer de faire quelque chose parce que c'est pas possible de laisser autant de pertes. C'est une perte, évidemment, c'est un impact écologique très fort. Mais aussi financière, parce qu'on estime que en gros, la valeur de ces déchets, s'ils n'étaient pas jetés, c'est quand même 16 milliards d'euros, donc achetés et jetés, du coup. Bref, donc du coup, il y a une loi qui est passée et qui dit, qui oblige à trouver une solution pour tous les citoyens en France, pour qu'ils puissent jeter convenablement leurs déchets alimentaires. En gros, ce que dit la loi, c'est qu'il existe des solutions pour les déchets alimentaires et les collectivités, les territoires vont mettre en place une ou plusieurs de ces solutions en fonction de ce qui existe sur leur territoire, ce qui est le mieux. Et comme ça, les citoyens auront des possibilités. Donc évidemment, l'objectif, c'est de diminuer fortement le nombre de déchets jetés dans la poubelle grise. Parce qu'en gros, c'est 25% des déchets dans la poubelle grise aujourd'hui, c'est du déchet alimentaire. Et donc, du coup, vous allez me demander... Mais qu'est-ce qui est possible de faire? Alors, je vous réponds.
Qu'est-ce qui est possible de faire?
Je vous fais les questions-réponses.
Merci.
En fait, il y a plusieurs possibilités quand on veut jeter ses déchets alimentaires autrement que dans la poubelle grise. Évidemment, quand on a un jardin, quand on a un espace vert, on pense au compost individuel. Donc, c'est-à-dire, souvent, c'est un bac, on met son compost et puis ça va permettre ensuite de pouvoir être utilisé. Autre solution, le compost collectif. Là, vous habitez dans un village, dans une ville, et puis il y a des composts collectifs qui sont mis en place. Généralement, c'est géré par des associations, mais ça peut être aussi par des collectivités. Et vous pouvez ramener vos déchets alimentaires. Alors, le compost, que ce soit individuel ou collectif, on ne peut pas tout mettre dedans, mais pour autant, on en met déjà une bonne partie. Ça marche bien, par exemple, le compost collectif, quand il y a un jardin collectif qui existe oui. juste à côté. Et comme ça, on peut utiliser directement le compost. Autre possibilité, les territoires peuvent mettre en place des poubelles en porte-à-porte que pour l'alimentaire. Alors, ce n'est pas hyper développé pour l'instant, cette solution, parce que du coup, ça demande quand même pas mal forcément de temps de collecte en plus pour les éboueurs, les éboueuses. Et des nouveaux bacs, donc généralement c'est des bacs marrons. Donc voilà, ça existe, mais c'est pas le truc le plus développé. Et puis il y a une dernière solution, quelque chose qui se développe beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est cette dernière solution? Ah bah je vous réponds. C'est les bacs alimentaires qu'on trouve dans les villes, principalement pour l'instant. Vous en trouvez par exemple à Lyon, ça se développe beaucoup. C'est des bacs alimentaires, c'est des gros bacs qu'on voit beaucoup, qui sont dans la rue, hein, sur les trottoirs. Et vous pouvez amener... Alors, la différence entre un compost collectif et un bac alimentaire, d'abord les bacs alimentaires, ils en ont mis partout, surtout dans tous les quartiers, donc vous pouvez y accéder facilement. Et l'autre différence, c'est que vous pouvez mettre tous vos déchets alimentaires. Et on verra après ce que ça implique, parce que forcément, si vous mettez tout, c'est pas pour le compost, mais alors, ça sert la suite dans quelques minutes.
Après, dans les solutions, il y a aussi les animaux domestiques. Hein. C'est aussi une façon de valoriser nos déchets quand on a des poules, même des chiens. Et puis, il y a le compost d'intérieur aussi. On peut citer le lombricomposteur, pour ceux qui connaissent peut-être pas un mode de compostage à base de lombric, également l'effet de micro-organismes, de bactéries, de levures et de champignons, ça produit un compost de très bonne qualité, figurez-vous. En fonction des modes de tri, les consignes de tri, elles peuvent un peu varier. Après, je vais essayer de vous donner basiquement ce qu'on peut mettre au compost, parce que on ne sait pas toujours très bien en fait faire, hein, je crois. Donc on peut y mettre les épluchures, trognons de fruits et légumes, les tontes de gazon, les coquilles de broyer et certains restes alimentaires, donc comme les féculents et les légumes. Et on peut même mettre les journaux et les cartons découpés en petits morceaux. Attention, ce qui n'est pas composté, c'est les fruits malades, les restes de viande, de poisson, de laitage et l'huile, les tissus synthétiques, les mégots de cigarettes, ça va de soi, hein, mais les tailles de tuya, les conifères et les résineux, et ça se composte pas très bien, la terre, le sable, le plastique, le verre, les métaux et les cendres de barbecue. Et au rayon donc des conseils, en fait, ce qui est important, c'est de réduire les déchets en petits morceaux, parce que les micro-organismes, ils seront plus efficaces si les déchets sont petits. Et on conseille de mélanger les types de déchets. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, les déchets verts et bruns, c'est idéalement 40% de vert et 60% de brun, donc de sec. Donc mettre une pelletée de feuilles mortes à chaque fois qu'on dépose des épluchures dans son compost. Maintenir une bonne humidité aussi, c'est utile. Et aérer et brasser de temps en temps son compost, idéalement, mais une fois par semaine. Parce que les micro-organismes ont besoin d'oxygène.
Vous avez un compost ?
Oui.
Ouais.
Moi, je fais en commun avec mes voisines.
Mmh, on super.
En a en commun. Ouais. Du coup, je m'occupe de rien à part mettre mes légumes.
Et toi, ça marche bien ?
Oui, je mets l'herbe de tonte avec et ça sert pour le jardin derrière.
Mmh. Ce qu'il ne faut pas mettre en grosse quantité, c'est les agrumes parce que c'est acide et les peaux d'avocat et d'ananas parce que c'est trop dur. Ça, on n'y pense pas non plus. Les sacs compostables, ce n'est pas tellement compostable non plus. Hein, dans des conseils, on évite. donc tu le disais, on peut le mettre en tas dans son jardin, hein, tout simplement. Après, on peut aussi acheter des composts tout prêts, en plastique. Il y a vraiment tout type de prix, hein, je regardais. Ça peut monter jusqu'à 200 euros pour les mieux. Alors, ceux qui ont des grilles en dessous, c'est pratique parce que ça évite qu'il y ait des rongeurs qui viennent à l'intérieur. Mais on peut aussi fabriquer son composteur avec des palettes, par exemple. Ça, c'est cool.
Et renseignez-vous parce que dans certains territoires, je sais qu'il y en a qui vendent... vous savez, soit le syndicat qui s'occupe des déchets, soit votre intercommunalité, qui vendent des composteurs individuels, voire ouais. même qui les donnent et, ou qui les subventionnent. Ouais. Donc, voyez ce qui ça, existe. Ouais. Mais oui, vous pouvez sinon fabriquer.
On passe au petit jeu. Je vais tester là. Un petit peu vos connaissances sur le compost. Alors, le jeu s'appelle « Je composte, je jette » ou « Les deux
». Alex, c'est pour toi, ça.
Merci. Mais non, tu vas voir. Alors, le sachet de thé.
Je composte.
Oui. Ouais. Les coquilles de noix.
Je composte.
Je jette.
Non, je jette, c'est toxique pour les plantes, en fait.
Ah oui.
Les cotons-tiges.
Je jette.
Je jette aussi.
Bah, les deux, parce que ceux qui sont en bambou ou en carton, ils sont compostables.
Ah ouais, mais tu triches.
Ah bah non, c'est le jeu. La boîte à pizza.
Je jette.
Je composte en tout petit bout.
C'est exactement ça. Oh tout là petit là bout, là ça
non,
passe.
Mais attends. franchement, je suis en train de voler le truc parce que c'est lui qui se fait chier à faire le compost à chaque fois. Moi, j'en fais pas.
Mais je mets pas tout ça dedans.
Et vous voyez pas, Mathilde, elle met sa main pour pas que je vois les réponses. Oui, quoi. Vraiment comme au lycée.
Comme pas.
Les vêtements en coton.
On peut. Tout à l'heure, tu as dit les vêtements synthétiques.
Oui, on pouvait pas. Le coton, on peut. Et la litière de mes chats.
Ah, c'est une bonne question.
Je sais pas quoi c'est.
Non.
Je dirais non.
Bah, ça dépend lesquels. Hein. Il y en a qui sont à base de sure et de paille. Et ça, on peut le mettre au compost.
Ouais.
Et pour finir, le billet de train.
Non, c'est une barre magnétique.
Il y a de l'encre.
Mais oui, mais je le composte à la gare. Oh, c'était une blague.
Merci d'avoir contre, ça fait un moment qu'elle n'a pas pris le train. Est-ce qu'on lui dit qu'il n'y a plus de composteur ou pas?
Oui, bon, j'ai 40 ans. Bon, alors, si on parle des filières, donc on en a parlé pas mal du compost. Hein, et si on parlait de méthanisation maintenant, c'est moins connu, ça.
La méthanisation, c'est une technique qui consiste en la transformation des matières organiques en énergie renouvelable. En fait, pour alimenter ça, il faut donc, dans un premier temps, les matières organiques. Parmi les plus courantes... se trouvent les matières agricoles telles que le fumier ou le lisier, des biodéchets des ménages, et des déchets des collectivités, des entreprises ou encore des bouts des stations d'épuration. Ça consiste ça va créer deux produits. D'une part, la production de biogaz, appelé biométhane. Après épuration, la production de biométhane est injectée dans le réseau pour satisfaire les usages industriels, chaleur, domestique, chauffage, eau chaude, sanitaire et cuisson, ou carrément le carburant bio GNV. Et l'autre sous-produit, c'est le digesta. C'est un résidu organique que l'on peut séparer dans une phase solide et une phase liquide. Le digesta contient principalement de l'azote sous forme ammoniacale, directement assimilable par les plantes et peut donc être utilisé comme engrais, en remplacement des engrais minéraux azotés. Le digesta solide peut lui être utilisé comme amendement organique en favorisant la restructuration de l'humus et en contribuant à l'enrichissement des sols. Le seul hic que j'ai trouvé, et il n'est pas neutre non plus, c'est que pour produire du maïs, si on met du maïs dans un méthanisateur, eh ben c'est beaucoup plus rentable que mettre d'autres produits dedans.
Donc ça veut dire qu'en gros, il peut y avoir des agriculteurs qui se disent « Ah bah tiens, je vais mettre mon... » Au lieu de le cultiver pour ensuite l'alimentation, bah, je vais le cultiver pour ensuite le mettre...
Exactement, donc c'est un gros risque. C'est plus rentable de faire du maïs pour mettre dedans que le mettre pour donner aux vaches.
Okay. Et on ne peut pas leur interdire quoi que ce soit pour
l'instant. Il y a une législation qui l'interdit,
okay.
Mais bon, la tentation, je ne sais pas comment elle est contrôlée.
Ok.
Je lisais qu'en 2030, ça représenterait 10% de la consommation de gaz, hein, le biogaz du coup, qui est produit par la méthanisation.
Ouais. Sinon, c'est un super outil.
Oui, c'est une bonne idée. Ça se développe en tout cas, on en voit pas mal. Et si on en revient au compost, nous, chers particuliers, parce que c'est bien de composter, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Déjà, le compost, il est prêt lorsqu'il est noir, il sent la terre forestière, l'humus, et qu'il s'effrite facilement. Là, vous savez que vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on peut faire, c'est le mettre au pied des plantes ou même l'intégrer en fait, au sol pour l'enrichir, tout simplement. Et ensuite, comme support de culture, on peut s'en servir aussi, même pour les plantes d'intérieur. Hein. Moi, j'y pense pas, du coup, mais on peut le faire. Ou réaliser des semis. Voilà. En fait, Merci les biodéchets, j'ai envie de vous dire.
Oui, et puis si jamais vous n'avez pas d'utilisation derrière, vous pouvez tout à fait... Moi, par exemple, à un moment donné, j'avais un lombricoposteur que je me suis fait voler. Mais, voilà. Mais je n'en faisais rien, mais ça permet déjà de réduire énormément la taille des déchets. Et ensuite, soit je le donnais, soit ça s'amoncelait, en fait. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est, de toute façon, c'est déjà une énorme réduction des déchets, quoi.
Absolument.
Et voilà. De tous les transports qu'il faut pour arriver jusqu'aux différents endroits.
C'est plutôt vertueux dans tous les sens du terme. J'espère que cette émission aura été utile pour tout le monde. Moi, j'ai appris plein de trucs, en tout cas.
Oui.
C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Court-circuit.
Dans la prise
de conscience écologique.